Trace de lumière, Christian Malaplate.
Radio FM plus 91 FM Montpellier présente Trace de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Yann et Michael. À la technique et les mêmes participations de Viviano, aujourd'hui l'émission est consacrée à Paul Éluard, capitale de la douleur. Nous écoutons la voix de Paul Éluard, enregistrée en 1947.
D'un et de deux, de tous. Je suis le spectateur et l'acteur et l'auteur. Je suis la femme et son mari et leur enfant, et le premier amour et le dernier amour, et le passant furtif. Et l'amour confondu, et de nouveau la femme, et son lit, et sa robe, et ses bras partagés, et le travail de l'homme, et son plaisir en flèche, et la houle femelle, simple et double, ma chère, n'est jamais en exil. Car où commence un corps, je prends forme et conscience, et même quand un corps se défait dans la mort, je gis en son creuset. J'épouse son tourment, son infamie honore et mon cœur et la vie.
Au XIXe siècle déjà, les romantiques puis les symbolistes ont été sensibles aux correspondances entre les arts et ont rêvé de supprimer les barrières que des siècles de tradition avaient érigées entre les diverses formes d'expression. Les surréalistes sont allés plus loin. Refusant les catégories et classifications traditionnelles, reniant même les notions d'art et de littérature, ils ont voulu, selon la célèbre formule à la fois, changer la vie et transformer le monde. Libérer l'homme de tout ce qu'il a servi, lui donner les moyens de se révéler à lui-même dans toute la profondeur et l'authenticité de son être. Telle a été leur ambition. D'où l'intérêt des poèmes qu'Éluard a consacrés à Klim, Braque et Miro dans « Capitale de la douleur » et que Poulenc a mis en musique dans « Le travail du peintre ». À travers les toiles, les mots et les notes s'expriment, le même hymne à l'activité créatrice qui est tout entière vie et liberté. Voici quelques poèmes sur les peintres.
Paul Klee. Sur la pente fatale, le voyageur profile de la faveur du jour, verglas et sans cailloux, et les yeux bleus d'amour découvrent sa saison qui porte à tous les doigts de grands astres en bagues. Sur la plage, la mer a laissé ses oreilles et le sable creusé, la place d'un beau crime. Le supplice est plus dur aux bourreaux qu'aux victimes, les couteaux sont des singes et les balles des larmes. Georges Braque. Un oiseau s'envole. Il rejette les nues comme un voile inutile. Il n'a jamais craint la lumière. Enfermé dans son vol, il n'a jamais eu d'ombre. Coquille des moissons, brisée par le soleil, toutes les feuilles dans les bois disent oui. Elles ne savent dire que oui. Toute question, toute réponse, et la rose coule au fond de ce oui. Un homme, aux yeux légers, décrit le ciel d'amour. Il en rassemble les merveilles, comme des feuilles dans un bois, comme des oiseaux dans leurs ailes et des hommes dans le sommeil. Miro, soleil de proie, prisonnier de ma tête, enlève la colline, enlève la forêt. Le ciel est plus beau que jamais. Les libellules des raisins lui donnent des formes précises que je désigne d'un geste. Nuages du premier jour, nuages insensibles et que rien n'autorise, leurs graines brûlent dans les feux de paille de mes regards. À la fin, pour se couvrir d'une aube, il faudra que le ciel soit aussi pur que la nuit.
Thank you.
C'est au début du 1919, peu après son retour de la guerre et son mariage avec Gala, que Paul Éluard entre en contact avec Louis Aragon, André Breton et Philippe Soupeau par l'intermédiaire de Jean Paulhan. Il publie dès lors plusieurs textes dans la revue Littérature et prend part aux activités provocatrices de Dada jusqu'à la rupture avec Sarah en 1922. Cette même année est celle de la collaboration avec le peintre allemand Marx Ernst qui aboutit au recueil Répétition et les malheurs des immortels. En mars 1924, à la veille de publier Mourir de ne pas mourir, le poète disparaît sans avertir ses proches. Il s'embarque à Marseille pour un long voyage autour du monde, en proie à une grave crise morale, littéraire et amoureuse. À son retour, quelques mois plus tard, il rejoint le mouvement surréaliste inauguré par le premier manifeste de Breton et la fondation de la revue La Révolution surréaliste. En 1926, Éluard adhère au Parti communiste avec d'autres membres du groupe surréaliste. Adhésion momentanément, cependant, mais il se rapprochera du nouveau Parti communiste à partir de 1938 après sa rupture avec Breton et pour y entrer définitivement en 1942. Dès lors, des chefs-d'œuvre se succèdent, Capitale de la douleur, L'amour, la poésie. Dernier recueil inspiré par son amour pour Gala, dont il se sépare bientôt pour vivre avec Nuche. L'année 1930, qui est celle de la publication du second manifeste du surréaliste par Breton, voit Éluard tenter l'expérience de l'écriture automatique, ralentir travaux en collaboration avec Breton et René Char, et l'Immaculée Conception en collaboration avec André Breton. C'est ensuite La vie immédiate, La rose publique, Les yeux fertiles. La Seconde Guerre mondiale disperse le groupe surréaliste et oriente Éluard vers le militantisme actif au service de la résistance puis de la cause marxiste à laquelle il restera fidèle jusqu'à sa mort. Voici le poème L'amoureuse, extrait du recueil Mourir de ne pas mourir de Paul Éluard, chanté par Gérard Pitot.
Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux, s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. S'évaporer les soleils me font rire, pleurer, rire, parler sans avoir rien à dire. L'amoureuse, l'amoureuse, l'amoureuse. L'amoureuse,
Capitale de la douleur, intitulé d'abord « L'art d'être malheureux », comprend 113 poèmes répartis en 4 sections indépendantes. Répétition. 35 poèmes de la période dadaïste, illustrés de collages de Marx Ernst. Mourir de ne pas mourir, 22 poèmes qui forment une sorte de testament poétique dédié à André Breton et lié au départ du poète pour le voyage inutile autour du monde. Ces deux parties sont les plus anciennes et ont été publiées antérieurement. Les deux autres sont d'inspiration plus récente. Et puis, le troisième groupe, Les Petits Justes, 11 poèmes courts imités de haïkus japonais. Et le dernier, le 4, nouveaux poèmes au nombre de 45, composés pour la plupart entre 1924 et 1925, et dédiés à Gala, la première femme des Lua. Capitale de la douleur est donc un recueil qui ne présente pas d'unité historique, ni d'unité d'inspiration, si ce n'est l'amour pour Gala, ce qui lui confère toutefois une sorte d'architecture secrète. C'est peut-être la prédominance de la faculté visuelle à travers les thèmes du regard et de la lumière. Regard d'amour, certes, mais aussi regard sur le monde, sur la nature, sur les choses qui nous entourent. Cette importance accordée à la vue transparaît dans le langage, le vocabulaire, les images, et dans l'attention qu'Éluard porte aux arts plastiques, bon nombre de poèmes étant inspirés par les œuvres de peintres contemporains. La poésie et les arts ont pour caractéristique commune de donner à voir, comme le suggère le titre de notre recueil célèbre d'Éluard, Capitale de la douleur, n'offre pas davantage d'unité sur le plan formel. On y trouve d'une part des poèmes de facture assez traditionnelle, obéissant parfois aux règles de la versification classique, et d'autre part des poèmes de facture plus moderne, illustrant certaines innovations introduites au XIXe siècle, notamment des poèmes en prose et des poèmes en vers libre. Capitale de la douleur, le titre même de l'œuvre, laisse entendre qu'il y a deux capitales, celle où vit Éluard, Paris donc, mais aussi Gala qui est sa femme, le cœur de sa passion et de sa peine. En effet, l'ouvrage est centré sur la figure de son épouse. Elle le fait souffrir car l'amour est une passion douloureuse. Voici la courbe de tes yeux.
La courbe de tes yeux. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont toujours pas vu. Feuille de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, elle, couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs. Parfum éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres, comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs et tout mon sang coule dans leur regard.
Thank you.
Le recueil capital de la douleur est un concentré pur d'émotions à travers des mots simples, des mots et des images incandescentes. Une apparente facilité niée par la complexité des symboles, des références picturales. Capital de la douleur recourt à certains codes de la verve surréaliste, notamment par la mise en scène de l'émergence spontanée de la parole, ainsi que par le recours à des marques textuelles. Dans le recueil, Capital de la douleur aborde les thèmes de l'amour, la sensualité et le désir, et met en avant le bonheur comme d'autant plus précieux qu'il est sans cesse menacé par la maladie et la mort, les émotions ressenties comme de véritables douleurs. Recueil emblématique du XXe siècle et œuvre majeure de Paul Éluard, Capital de la douleur cristallise l'intensité du sentiment amoureux. Profondément meurtri de voir la femme qu'il aime s'éloigner de lui, l'auteur rédige des poèmes où le rêve côtoie le désir, où le jeu est universel. Des textes qui comptent aujourd'hui parmi les plus beaux poèmes d'amour. L'amoureuse, la courbe de tes yeux, fait le tour de mon cœur. De nombreux poèmes portent les noms d'artistes de l'époque. Pablo Neruda, Picasso, André Masson, Paul Klee, Max Ernst, Georges Braque ou encore Miro. Et voici la lecture de quelques poèmes extraits de Capital de la douleur. La parole, absence, celle de toujours toute.
La parole. J'ai la beauté facile et c'est heureux. Je glisse sur les toits des vents. Je glisse sur le toit des mers. Je suis devenue sentimentale. Je ne connais plus le conducteur. Je ne bouge plus, soit sur les glaces. Je suis malade, fleurs et cailloux. J'aime le plus chinois au nu. J'aime la plus nue, aux écarts d'oiseaux. Je suis vieille, mais ici je suis belle. Et l'ombre qui descend des fenêtres profondes épargne chaque soir le cœur noir de mes yeux.
Absence. La plate volupté et le pauvre mystère que de n'être pas vu. Je vous connais, couleur des arbres des villes. Entre nous est la transparence de coutume, entre les regards éclatants. Elle roule sur pierre comme l'eau se dandine. D'un côté de mon cœur, des vierges surcurcissent. De l'autre, la main douce est au flanc des collines. La courbe de peu d'eau provoque cette chute. Ce mélange de miroirs, lumière de précision, je ne cligne pas des yeux, je ne bouge pas, je parle. Et quand je dors, ma gorge est une bague à l'enseigne de tulle. Je sors au bras des ombres, je suis au bas des ombres, seul. La pitié est plus haut et peut bien y rester. La vertu se fait l'aumône de ses seins et la grâce s'est prise dans les filets de ses paupières. Elle est plus belle que les figures des gradins. Elle est plus dure, elle est plus en bas avec les pierres et les ombres. Je l'ai rejointe. C'est ici que la clarté livre sa dernière bataille. Si je m'endors, c'est pour ne plus rêver. Quelles seront alors les armes de mon triomphe? Dans mes yeux grands ouverts, le soleil se fait les joints. Ô jardin de mes yeux, tous les fruits sont ici pour figurer des fleurs de la nuit. Une fenêtre sans feuillage s'ouvre soudain dans son visage. Où poserai-je mes lèvres, nature sans rivage? Une femme est plus belle que le monde où je vis, et je ferme les yeux, je sors au bras des ombres, je suis au bas des ombres, et les ombres m'attendent.
Celle de toujours, toutes. Si je vous dis, j'ai tout abandonné, c'est qu'elle n'est pas celle de mon corps. Je ne m'en suis jamais vantée, ce n'est pas vrai, et la brume de fond où je meus ne sait jamais si j'ai passé. L'éventail de sa bouche, le reflet de ses yeux, je suis le seul à en parler, je suis le seul qui soit cerné par ce miroir si nul où l'air circule à travers moi et l'air a un visage aimé, un visage aimant, ton visage, à toi qui n'a pas de nom et que les autres ignorent. La mer te dit « sur moi », le ciel te dit « sur moi », les astres te devinent, les nuages t'imaginent et le sang répandu au meilleur moment, le sang de la générosité, te porte avec délice. Je chante la grande joie de te chanter, la grande joie de t'avoir ou de ne pas t'avoir, la candeur de t'attendre, l'innocence de te connaître. Ô toi qui supprime l'oubli, l'espoir et l'ignorance, qui supprime l'absence et qui me met au monde, Je chante pour chanter, je t'aime pour chanter, le mystère où l'amour me crée et se délivre. Tu es pure, tu es encore plus pure que moi-même.
Thank you.
De Paul Éluard, Invocation, poème extrait de Poésie ininterrompue, dit par Jean-Louis Barrault.
Entre en moi, toi, ma multitude, puisque je suis à jamais ton miroir, ma figurée. Les rues vont loin qui passent par nos villes, loin dans les champs où l'on avance avec l'amour, avec la vie, avec le jour. Entre en moi, toi, toujours meilleur, toujours semblable à mes désirs, illimité et torturé et rassuré, toute voile tombée, toute voile dehors, creusée de nuit et de lumière, et captant le silence et drainant la rumeur. Entre en moi, toi, ma paresseuse, ma berceuse, je n'ai pas de secret pour toi, avec toi je n'ignore rien, tu es faite pour tout savoir, je te dis tout au tableau noir de mon passé, de ma jeunesse. Car tout n'a pas été si facile ni gai.
Voici un fragment du chant de Suzanne d'Alfred de Vigny, dit par Madeleine Auzeré.
De l'époux bien-aimé, n'entends-je pas la voix ? Oui, pareil au chevreuil, le voici. Je le vois. Il reparaît joyeux sur le haut des montagnes, bondit sur la colline et passe les campagnes. Oh, fortifiez-moi. Mêlez des fruits aux fleurs, car je languis d'amour et j'ai versé des pleurs. J'ai cherché dans les nuits, à l'aide de la flamme, celui qui fait ma joie et que chérit mon âme. Oh, comment à ma couche est-il donc enlevé ? Je l'ai cherché partout et ne l'ai pas trouvé. Mon époux est pour moi comme un collier de myrrhe. Qu'il dorme sur mon sein, je l'aime et je l'admire. Il est blanc entre mille et brille le premier. Ses cheveux sont pareils aux rameaux du palmier. À l'ombre du palmier, je me suis reposée et du nard précieux ma tête est arrosée. Je préfère sa bouche aux grappes d'Engadi. Qui tempère dans l'or le soleil du midi. Comme entouré d'amour, son bras gauche s'apprête et que de sa main droite il soutienne ma tête. Quand son cœur sur le mien bat dans un doux transport, je me meurs. Car l'amour est fort comme la mort. Si mes cheveux sont noirs, moi je suis blanche et belle. Et jamais à sa voix mon âme n'est rebelle. Je sais que la sagesse est plus que la beauté. Je sais que le sourire est plein de vanité. Je sais la femme forte et veut suivre sa voie. Elle a cherché la laine et le lin et la soie. Ses doigts ingénieux ont travaillé longtemps. Elle partage à tous et l'ouvrage et le temps. Ses fuseaux ont tissé la toile d'Idumée. Le passant dans la nuit voit sa lampe allumée. Sa main est pleine d'or et s'ouvre à l'indigent. Elle a de la bonté le langage indulgent. Ses fils l'ont dit heureuse et de force douée. Ils se sont levés tous, et tous ils l'ont loué. Sa bouche sourira lors de son dernier jour. Lorsque j'ai dit ces mots, plein d'un nouvel amour, de ses bras parfumés, mon époux m'environne. Il m'appelle sa sœur, sa gloire. Et sa couronne.
Présentation des livres parus ce mois-ci.
Tu la retrouveras, un roman de Jean Hatzfeld, collection Blanche Gallimard, Budapest, hiver 1944-1945, deux fillettes, Schindel et Isetta, l'une juive, l'autre tzigane, ont trouvé refuge dans le zoo en ruine où errent des animaux affamés. débrouillarde et vive, toujours en alerte, elle se donne pour mission d'organiser la fuite des girafes, zèbres et autres résidents du zoo hors de la ville tenue par les nazis et encerclée par l'armée rouge. Longtemps après la fin de la guerre, Schindel revient à Budapest et entame une longue quête à la recherche de son ami. En 1995, à Sarajevo, elle poursuit toujours l'ombre d'Iseta. Malgré les décors d'apocalypse, ce nouveau roman est à la fois émouvant et plein de vie. L'amitié des deux fillettes, cimentée par leur relation avec des animaux de toutes sortes, donne au lecteur le sentiment de pénétrer un mystère joyeux.
L'Aiguillère brisée, roman de Jean Guy, soumis aux éditions Presse de la Cité, collection Terre de France, présentée par Viviane.
À la fin du XVIIIe siècle, le destin d'une jeune femme en avance sur son temps, grâce à ses connaissances en botanique et en médecine, pionnière flamboyante, incarnation des Lumières face à l'ancien monde. Singulière, érudite du vif argent. Si sa vocation est évidente, la jeune Antea est confinée dans l'ombre de son père, éminent botaniste, qui l'a initiée à la science dès l'enfance. Elle poursuit ses recherches, certaines sous la direction du grand naturaliste Buffon. Pourtant, elle ne reçoit aucune reconnaissance des académies savantes, car née femme. À la faveur d'un voyage en Haute-Auvergne, où elle accompagne son père, elle fait la connaissance d'Étienne. Tout les oppose. Elle est une fille des Lumières et prise de liberté. Lui, un homme de tradition. À ses côtés, fascinée, elle découvre un autre savoir d'excellence, celui des maîtres verriers. Une relation teintée de défiance et d'attraction se tisse entre eux, aussi fragile qu'une aiguière soufflée. Un beau roman initiatique ou l'éclosion d'une femme magnifique.
Voici Le Jardin de Giverny, paroles de Marc-Fabien Bonnard, musique de François Bérin, interprétée par Noël Cordier.
Je me mets au vert en harmonie, c'est grand, j'écoute la symphonie de la nature à Giverny, tous ces soleils qui me sourient. C'est comme un jardin de poète où les mots seraient des couleurs, où seuls les yeux cueillent les fleurs aux rives du temps qui s'arrête. Aux rives du temps qui s'arrête. Et des roses, plein les yeux, plein le cœur. La nature qui s'impose en couleur, en douceur. Parcourir sans courir un tableau, un jardin. Découvrir Giverny quand l'amour est si loin. Voir sur les branches les glycines mauves s'enrouler comme des guimauves et les feuillages qui font l'amour à la tendre lumière du jour. Et je renais chez Claude Monet et tout bleuï, tout m'éblouit comme dans un rêve d'au-delà se reflètent les nymphéas. Se reflètent les nymphées. Et des roses, plein les yeux, plein le cœur. La nature qui s'impose en couleur, en douceur. Parcourir sans courir un tableau, un jardin. Découvrir Giverny quand l'amour est si loin. Qu'est-ce que j'aimerais si tu me prenais sur le petit pont japonais en photo, en simple. Le touriste pour le fun, pour sentir que j'existe. Je suis ce papillon qui vole, un peu de jaune au tournesol, et je respire dans le silence tous les parfums de mon enfant. L'amour n'a plus couleur de pluie face au soleil de Giverny. Je te laisse cadeau, c'est gratuit. Mes impressions de Giverny, mes impressions de Giverny. et des roses, des caresses de couleur. La nature me repose et les yeux et le cœur. Parcourir sans courir un tableau, un jardin, découvrir Giverny.
Jean Giono, dans un entretien qu'il avait accordé à Jean Carrière, parle du rôle du poète.
Vous avez dit dans cette remarquable introduction à Virgile, vous avez dit Virgile n'est pas de ceux qui jouissent, il est de ceux qui disent comment on jouit.
Mais bien sûr, mais ça c'est le rôle du poète, c'est le rôle, quand je parle, je dis poète, c'est le rôle de l'écrivain quoi. Le rôle de l'écrivain c'est celui qui apprend à voir, qui apprend à regarder, qui apprend à écouter, qui apprend à jouir, qui apprend à sentir, il l'apprend. Non pas d'une façon didactique, il n'est pas un professeur, mais tout simplement, il l'apprend en faisant connaître aux autres de quelle façon lui le sent, et de quelle façon lui se débrouille avec ses sentiments et avec ses sens.
Alors vous avez aussi, vous avez une fois, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu troublé, vous avez dit, ils me font rigoler, je crois que c'était en 36, ils me font rigoler quand ils disent que je suis un poète.
Ben oui. Oui, parce que j'ai le sentiment que être poète, c'est une fonction qui n'a pas besoin de l'écriture pour s'exprimer. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, le sens qu'on donne au mot poète, c'est celui qui fait de la poésie.
Mais fabricateur.
Sinon, fabricateur, celui qui publie des poèmes ou des proses poétiques ou des romans dans lesquels la poésie a une grande importance. C'est ce qu'on appelle poète. Dans ce sens-là, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est qu'au-delà de ces poètes-là qui sont les moindres, il y a les grands poètes qui sont ceux qui n'écrivent pas, qui sont ceux qui jouissent de la vie, qui mettent leur poésie dans la vie qu'ils mènent.
Ce sont les grands inconnus.
Ceux-là, ce sont les grands poètes. Évidemment, tu comprends bien que dans un monde comme, celui auquel nous appartenons, et il faut qu'il y ait des poètes qui n'ont pas écrit pour que ça existe, la poésie, tu comprends ?
Oui,
c'est pas seulement celle qui est écrite qui compte, c'est celle qui s'exprime dans le monde par les actes. Sans poète, par exemple, les quantités de gens sur lesquels je ne porte pas de jugement, mais par exemple ceux qu'on appelle les affreux qui vont au Congo, les grands aventuriers, ce sont des poètes, ça ce sont des poètes. Ce sont aussi des poètes, ceux-là.
Ces poètes sont en contact avec une certaine réalité, et cette réalité, est-ce que...
Pour moi, la réalité est sans aucun intérêt. Je l'utilise dans ma vie quotidienne,
oui.
Mais pour mon écriture, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'inventer absolument tout. Inventer absolument tout en partant de choses existantes, car seul Dieu peut inventer à partir de rien, tu comprends ? On est forcé d'inventer à partir de quelque chose qui existe déjà.
C'est assez curieux, parce que même dans vos premiers livres, on a l'impression que le monde que vous décrivez, alors c'est une chose qui peut mettre en colère certains gionistes, s'il en existe.
Moi, faut pas dire ça. C'est un peu ridicule le mot de gioniste.
Je le prends dans le sens de gens qui s'imaginent que vous avez décrit un monde qui existe.
Je crois que ce malentendu-là n'existe plus depuis longtemps. Au début, évidemment. À une certaine époque, j'en reçois encore quelques-unes. Quelques lettres qui me disent, j'ai reçu des lettres qui me disaient « Voilà des cartes Michelin, voulez-vous marquer sur cette carte Michelin les emplacements où se passaient vos livres ?» Je les ai marqués, car en effet, ce sont à ces endroits-là que j'ai pensé lorsque j'ai écrit mes livres. Mais pour ceux qui y vont, il ne faut pas qu'ils s'imaginent à les trouver dans les traces, dans mes pas, les traces exactes des livres, des choses qui sont décrites dans le livre. C'est une adaptation, c'est une transformation des choses vues par l'artiste. Tu comprends ? Voilà un champ de blé. Il existe un champ de blé. Ce champ de blé, il existe pour son propriétaire, il existe pour le bourgeois qui promènera sa famille autour du champ de blé le dimanche après-midi, il existe pour l'économiste distingué qui, lui, comptera ce champ de blé dans l'étiage de la récolte de la France, et il existe le champ de blé de Van Gogh.
Ah voilà, c'est
le...
Ah,
le champ de blé de Van Gogh, n'a aucun rapport avec le champ de blé de tous les autres, tu comprends ? Montre le champ de blé de Van Gogh au propriétaire, le propriétaire ne reconnaîtra pas son champ de blé. Montre-le au bourgeois, il ne reconnaîtra pas non plus l'objet qui lui a donné le plaisir qu'il a pris en se promenant autour du champ de blé le dimanche après-midi. Quant à l'économiste distingué, il s'en foutra totalement, tu comprends ? Tandis que nous, toi, moi et beaucoup d'autres, ce que nous allons mettre au mur, ça ne va pas être le barème de l'économiste distingué, ni le portrait du bourgeois, mais c'est le champ de blé de Van Gogh. Pourquoi le champ de blé de Van Gogh ? C'est parce que Van Gogh a payé le champ de blé, il s'y est ajouté, et puis il a transformé le tout en une espèce d'autre chose qui est devenue le champ de blé de Van Gogh.
Les vénures tracent l'attente, livrent les signes secrets des ombres. Quelques cernes violacées sur les bords accentuent les griffes. Les fleurs dorment, il n'y a pas la trace d'un chagrin. Un piano dans la nuit, une blanche colombe sur le rebord d'une fenêtre, des papillons crépusculaires qui embrasent des fleurs. Dans certains souvenirs, les ombres sont trop longues. Elles sont souvent accompagnées de musiques bizarres, entre les lumières inutiles, parfois les projets de toute une existence. Dans les plis du jour se glissent les rafales du temps et les embruns de l'océan, avec en fond de voix les éclats de silex qui se répandent sur les toits du silence. Une suite de mots pour attraper un alphabet perdu, tissé de rosée d'inquiétude à la lisière des choses, et dans un tourbillon d'ombre pour mettre fin à des déchirures et des signes énigmatiques. Sur la grande table des sentiments, j'étale des draps humides qui témoignent de tant de dérobades, quand mes chemins sont incertains, mes mots sont inquiets, du coup ils font le guet.
Royaumes interdits, une nébulosité de feuillage ivoirin délie leur sortilège dans les bercements de la lande. Sur l'échiquier du temps, je donne vie à des oiseaux de papier qui s'envolent vers les étoiles pour ne jamais revenir. L'air matinal allonge sa paresse sous un ciel gonflé depuis 105 incandescentes, se baignant dans une chevelure marine. Connais-tu le pays où il ne pleut jamais ? L'échappée y est d'une incomparable magnificence. La neige ondoie dans les airs sans jamais recouvrir les cimes. L'on y goûte des fruits à la chair pulpeuse, le lagon enlumine de félicité. Bousculant les caprices d'un opéra naissant, de théâtrales vapeurs distillent des sensations ensorcelantes. Sur un parchemin neigeux, une nymphe baigne son corps à la source d'un soleil mythique pour mêler son rire à celui des planètes. Le flambeau du déclin fait glisser son masque de fluide chimérique. Une torpeur se dénude dans la fascination d'un tableau inassouvi. À l'instant où les planètes, dans leurs moires argentées, boivent à la coupe de l'immortel pour donner vie à des royaumes interdits. Le petit pont de bois. Le petit pont de bois, la pâleur azurée s'époumonne. Les barques épuisent les rides d'une eau câline pour de leurs agents se fondre dans l'opulence cotonneuse d'une création. Le mas apparaît tel un bonheur, drapé dans son sari un soir de noces. La brune s'approprie l'éternité dans le babil d'une liesse. Une pureté papillonne, telle une ballerine sur une scène allégorique. Beauté aérienne, courtisant de son vol la lampe surannée aux éclats de porcelaine. Une multitude de réverbérations se décline en jalousie fantasque. Ton haleine silencieuse s'égare sur les berges multicolores de l'étang, à l'instant où la lune s'épanche sur mon corps endormi.
Tous les lundis de 11h à 12h, Traces de Lumière, rediffusion tous les lundis de 20h à 21h. Vous pouvez écouter l'émission par internet www.radiofmplus.org. Le prochain rendez-vous de Traces de Lumière sera consacré à Francis Ponge, La rage de l'expression. Bonne semaine à toutes et à tous.